Il y a une zone franche qui est habituellement pas comptée dans les zones franches, la plus grosse, la plus globale, 1 million de travailleurs, 1 200 000, ça ferait porter ton chiffre à 28 au lieu de 27, et c'est la marine marchande mondiale. Et c'est en quelque sorte le prototype, la base avancée de ce qui nous attend à partir des zones franches, à partir de la marine marchande, sur l'ensemble du marché du travail mondial. J'ai combien de temps en fait? Bon. Bien. Dans les fonctions des paradis fiscaux, on pense toujours à la dimension fiscale, à la dimension juridique, on pense beaucoup moins souvent à la dimension sociale. Lorsqu'on pense aux bateaux, on pense souvent aux marées noires, on pense souvent aux calimites, on ne pense pas souvent à l'ensemble du fonctionnement de la marine marchande. Or, sur les bateaux, il n'y a pas que du pétrole, il y a aussi des marins. Et la condition des marins ne se limite pas aux cas limites qui ont été popularisés par quelques bons journalistes de marins abandonnés dans les ports du monde. Ces cas limites ne sont que la frange, que l'indicateur d'une situation globale, pardon, que je vais essayer de vous caractériser en quelques mots. On est passé de marché du travail nationaux, de marine marchande nationale, avec des armateurs sous des lois nationales, aux prises avec des syndicats nationaux aussi, à une marine marchande mondiale, sous pavillon de complaisance pour les 2/3 à peu près, au dernier pointage que j'ai fait, de celle de la capacité de transport. Et pour la plus grande partie du reste, ce ne sont pas des pavillons de complaisance, ce sont des pavillons bis, ce sont les pavillons bis européens, c'est-à-dire des imitations de pavillons de complaisance qui permettent, en restant à l'abri des pavillons de nations développées, démocratiques, industrialisées, de faire la même chose. Et dont le but est précisément de concurrencer sur les mêmes critères sociaux et fiscaux et juridiques, de concurrencer la complaisance internationale. C'est-à-dire que la pratique de ce qui se fait dans les pavillons de complaisance, proprement dit, est devenue la norme, le standard international qu'on cherche maintenant à imiter à l'intérieur de nos pays et à introduire dans la législation de nos pays. Bon, là j'en suis presque à la conclusion, je vais quand même reprendre un peu plus en détail. On est passé donc des marchés du travail nationaux au marché mondial. Au passage, dans les quelques dizaines d'années qui se sont écoulées, avec, on l'a bien senti dans l'exposé d'Éric Toussaint, la liquidation des flottes nationales qu'après la décolonisation essayaient de se monter les pays décolonisés. Tout ceci a complètement coulé. Les armements des pays industrialisés n'ont pas coulé, ils ont régressé et ils se sont cachés principalement sous pavillon de complaisance. On est donc sur un marché du travail mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce marché s'est complètement affranchi des lois nationales sans rentrer pour autant dans les conventions internationales du travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi par le principe même des paradis fiscaux, et il n'y a pas de loi parce que les patrons, armateurs et affréteurs, font tout pour s'en abstraire et avec la bonne excuse que le marché du transport dont Madame Lepage vous a parlé, le marché des fret maritimes, subit une telle pression, et à partir en particulier de cette pression financière dont Christian Pierre vous a parlé, une telle pression qu'il exerce en retour sur le dernier marché sur lequel on peut gagner, une fois qu'on a largué tout ce qui est fiscal et tout ce qui est contrainte juridique et de sécurité, il n'y a plus que sur le marché du travail, et là on peut toujours gagner, on n'est jamais tout à fait au fond, on est au fond que lorsqu'on a atteint les conditions limites de l'esclavage, de ce qu'on appelle l'esclavage moderne. On peut dire qu'on en est, non pas là, on ne sait pas ce que sera l'avenir, mais sur le chemin. Pourquoi ? Parce que si vous enlevez du marché du travail tous les régulateurs qui ont fait que, au fil des générations, les travailleurs ont obtenu, chez nous et dans bien d'autres pays, de passer du contrat précaire et du salaire minimum à des statuts plus stables, de passer au respect tout simplement de la dignité de leurs conditions de travailleurs, de passer, c'est la base de tout, par le gain des libertés syndicales et des libertés individuelles et collectives, sans lesquelles rien de tout ça n'aurait été possible, eh bien tout ceci, sur le marché, dans les zones franches, on le sait, mais ça paraît comme des cas particuliers, on ne voit pas bien l'ensemble, sur l'ensemble du marché du travail mondial maritime, tout ceci a été balayé par le système des pavillons de complaisance. Et lorsque sur un marché il n'y a plus de loi, lorsqu'il n'y a plus de règles, le marché se réorganise spontanément sur des principes extrêmement simples, du dumping maximal bien sûr, de la pression maximale, de la concurrence maximale, sur deux principes d'organisation simples que j'appelle le marchandage et la discrimination. Le marchandage, c'est le retour à une pratique des débuts de la révolution industrielle qui a été interdite en 1848, puis par une autre loi en 1920 chez nous, que l'on croyait à peu près éliminée. C'est le fait que des entreprises ont pour seule fonction d'acheter de la main-d'œuvre sur le marché mondial au moindre prix dans n'importe quel pays, en profitant de ce que, sur le plan maritime, les transports aériens et les télécommunications permettent effectivement d'aller chercher du personnel n'importe où, de l'acheter au moindre prix partout et de le revendre tel quel aux armateurs. C'est-à-dire que les travailleurs se trouvent, et ça a été fait l'an dernier au chantier de l'Atlantique, mais d'une façon illégale, donc ce sont des tendances connues, les travailleurs ne sont plus sous contrat avec leurs employeurs réels, mais avec des marchands installés n'importe où, dans leur pays d'origine ou dans les paradis fiscaux, qui les revendent aux armateurs qui peuvent les exploiter sans aucune responsabilité, sans aucune crainte non plus de résistance syndicale, parce que dans ce système des marchands de main-d'œuvre, qu'on appelle des marchands d'hommes, mais comme il y a pas mal de femmes aussi, je préfère dire marchands de main-d'œuvre, dans ce système, le syndicalisme est pratiquement éradiqué, interdit. Et non seulement le syndicalisme, mais la simple résistance, la simple rouspétance, vaut un petit rapport qui vaut la mise sur une liste noire, que les marchands d'hommes se distribuent entre eux très généreusement, et que donc, j'en suis à combien là ? Ça va encore ? Bon. Donc voilà où ça en est. Voilà où ça en est. Évidemment, ce marchandage est fondé sur l'exploitation de la main-d'œuvre là où elle est le plus chère en fonction des qualifications, sur la discrimination, c'est-à-dire qu'on compose soit des équipages homogènes pas chers, soit de plus en plus des équipages composites, avec pour 20 personnes 7 ou 8 nationalités, ce qui permet que les gens ne s'entendent pas entre eux, pour se battre, bien sûr, ce qui permet de payer chaque qualification au prix inférieur, ce qui permet, sur un même bateau, d'embaucher des gens au même poste avec des salaires allant du simple au double ou au quadruple, suivant que vous êtes belge ou croate ou philippin, au même poste. Enfin, toutes les formes de discrimination, et on s'aperçoit qu'on est revenu en arrière sur pratiquement 2 siècles de conquête sociale. Ensuite, dernier volet, à partir des pavillons bis, on introduit ceci dans les législations nationales et européennes. C'est-à-dire que ce qui se fait sous pavillon de complaisance en dehors de toute légalité, à partir du moment où nos dirigeants, politiques y compris, ont décidé que c'était devenu la norme internationale, eh bien on cherche à passer des lois qui reconnaissent ce double principe de marchandage et de discrimination, en tournant autour du droit international pour faire semblant d'en tenir compte, pour l'appliquer légalement dans notre droit français et européen dans les autres pays. Ça, c'est le projet de loi qui s'appelle RIF, Registre International Français, qui est actuellement en panne, car les syndicats ont très vivement réagi, mais on n'en a pas fini. Donc, avec ceci, on retrouve d'autres tendances actuelles sur le marché du travail, qui sont, par exemple, une circulaire, une directive européenne en projet, qui projette d'introduire ce système de marchand de main-d'œuvre dans l'espace européen, par l'intermédiaire de la libéralisation et de la non-discrimination entre services publics. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter à une entreprise polonaise, sous contrat polonais, de la main-d'œuvre polonaise et aussi de la main-d'œuvre indienne à embaucher en Pologne à des conditions théoriques polonaises, et tout ceci les faire travailler au chantier de l'Atlantique. Ça s'est fait, ça se fait, c'est pas légal, on a essayé d'introduire ça dans la légalité. Voyez la brèche dans le droit du travail. Et ensuite, ça rejoint les projets de l'OMC de faire la même chose à l'échelle mondiale. Bon, je vais essayer d'arriver au bout, je crois qu'il est temps. Et en parallèle de ça, il faut quand même le rappeler, on ne cesse d'avancer le travail, y compris avec des syndicats internationaux, d'avancer du droit international au niveau de l'Organisation internationale du travail. Ce sont des bases dont il faudra parler quand on en sera à la recherche des solutions. Et puis, en conclusion, disons que cette histoire de marin, c'est donc pas une histoire d'un ghetto professionnel à part, c'est vraiment une tendance mondiale à considérer en priorité. Elle fait apparaître que dans tout ce système de surexploitation mondiale, en bout de chaîne, il y a toujours des travailleurs, et que finalement les 15% de profit qu'exige la finance, il y a bientôt plus que sur le travail qu'on pourra jouer pour arriver à s'en approcher, et que c'est vraiment une histoire qui nous concerne absolument tous.